BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. J'espère que vous allez bien, c'est la dernière de la saison et pour l'occasion, le Bitcoin prend plus de 2% aujourd'hui. On est aux alentours des 44 200 $, on en parle dans quelques instants par téléphone avec Valentin Nico, membre de la cellule Airfo d'experts de Bourse Direct. Et puis, dernier club BFM Crypto de l'année, donc simple. Bilan de l'année 2023 et perspective de l'année 2024 pour ce marché des cryptoactifs. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Fourcault. Bonjour Vincent.
Bonjour Amaury.
Expert de la tech et des marchés financiers. Et puis Louis Tellier. Bonjour Louis.
Bonjour Amaury.
Journaliste pour The Big Whale. On file tout de suite pour un point rapide du marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin.
Oui, bonjour Amaury.
Bon, je le disais, on est en hausse, hein, à quasiment 44 200 $. À quoi s'attendre pour la suite, Valentin ?
On reste sur un, donc on poursuit sur la tendance haussière, hein, qui se matérialise de plus en plus. Là, on a eu un phénomène sur les marchés réglementés où on a eu des annonces de plus ou moins à l'avance de baisse de taux éventuelles qui ont soutenu tous les marchés risqués. Et qui ont amené une grosse détente du risque global sur le marché. Donc forcément, ça pouvait pas être non plus négatif pour le marché des cryptos. En plus de la tendance haussière de base, on est aussi poussé par des paramètres de l'environnement économique. Là, on revient sur une résistance. On est à 44 100 actuellement. Si on dépasse 45 000, toujours essayer de rentrer. Comme on l'avait dit, on est souvent sur un format de marché à la hausse un peu en escalier, en overlap, donc avec des résistances qui deviennent des supports progressivement. Et donc à chaque fois qu'on dépasse une résistance, commencer à rentrer sur cet actif qui n'arrête pas de progresser, hein, clairement.
La prochaine résistance à surveiller à la hausse, c'est quoi? C'est les 45 000?
C'est du moins si on passe les 45 000, oui, on pourrait se dire qu'il y a un nouveau, une nouvelle marche à passer, reviser encore une fois, 47 000, 48 000 pour la prochaine, quoi.
Eh ben, on va surveiller tout ça avec attention. Merci beaucoup, Valentin Nico. Je le rappelle, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée, bonne soirée, Valentin, et passe de très bonnes fêtes. À très vite. Messieurs, on fait ce bilan de 2023 et on va parler évidemment des perspectives 2024. Mais pour commencer, simple, bilan 2023, qu'est-ce qui, selon vous, vous a le plus marqué en 2023? Louis, on va commencer avec vous. En 2023, qu'est-ce qu'il y a eu s'il y avait trois événements qu'il ne fallait pas oublier, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette année?
Alors, je pense que le premier, effectivement, c'est... pas une fin de la fête, mais on va dire c'était une année très dure pour les cours. On a bien fini parce que on vient de le voir, mais ça a surtout été l'année de la réglementation, c'est-à-dire de l'entrée dans une nouvelle réalité pour le secteur crypto, c'est celle de la réglementation. Alors l'année a commencé en janvier-février un peu tambour battant avec des amendes de la SEC, des plaintes civiles aussi de plusieurs régulateurs, dont notamment la CFTC aux États-Unis. Alors évidemment il y a eu Binance, mais il y a aussi eu Coinbase, il y a eu Kraken, hein, qui a écopé d'une amende de 30 millions de dollars notamment pour ne pas avoir respecté ou été assez clair en gros et transparente sur son offre de stacking. Donc on rappelle, hein, le stacking c'est le fait d'immobiliser des cryptos dans une blockchain en gros pour participer à sa sécurisation. Et ce qu'a dit la SEC, c'est à reprocher à Kraken en fait de ne pas avoir été assez transparent. Donc ça c'est quand même la première chose, c'est que évidemment les acteurs crypto connaissaient le spectre, le risque, de l'entrée en vigueur de la réglementation, et aux États-Unis on l'a clairement eu. Le deuxième événement quand même, alors on va un peu personnaliser, et c'est quelque chose qu'on a souligné dans le rapport de The Big Whale,
donc
qui a été
rédigé. D'ailleurs, donc vous avez fait un rapport, donc tendance et perspective. Exactement. De 2024, hein, pour le marché des actifs numériques, que vous allez voir apparaître la première couverture à l'écran. Voilà, pour ceux qui nous suivent à la télé, vous voyez ce rapport qui est sorti déjà, du coup.
Exactement, il est sorti, voilà. Il est téléchargeable gratuitement sur le site, donc The Big Whale. Il a été rédigé sous la direction de Grégory Raymond, donc qui est patron,
directeur de la recherche,
qui est directeur de la recherche exactement. Alors aujourd'hui, voilà, c'est une branche chez nous qui se lance, mais effectivement qui s'étoffera. Mais voilà, il a été rédigé sous sa direction, et dedans, on a voulu quand même souligner, c'est un petit peu le retour en force de Coinbase. Parce que si la réglementation commence à arriver, en fait, sera inévitable. En fait, il y a des acteurs depuis quand même maintenant plus de 10 ans, parce que Coinbase a été lancé il y a plus de 10 ans maintenant.
Coinbase fait le bon élève depuis le début, en tout cas par rapport à un Binance qui a une stratégie un peu pirate, on va dire.
Voilà, alors beaucoup moins ces dernières années, mais effectivement, Coinbase a toujours clamé et fait partie des acteurs qui ont dit on mettra toujours la réglementation au cœur de nos stratégies. Donc, quitte à développer des choses moins vite, quitte à être moins sexy, quitte à être beaucoup plus institutionnel et se braquer une partie, effectivement, des utilisateurs de l'écosystème crypto, on ne prendra le risque, en tout cas, réglementaire. Alors, évidemment, comme il n'y a pas de réglementation aux États-Unis, la SEC les embête un petit peu, mais c'est quand même beaucoup moins en proportion par rapport notamment à Kraken ou à Binance. Et puis, le troisième quand même événement marquant de 2023 et qui en fait a porté au niveau de la narrative l'espoir et a fait tenir quand même pas mal de monde, c'est les fameux ETF spot Bitcoin. Donc un ETF spot Bitcoin, en gros, quand on dit spot, c'est que vous allez acheter donc une action, une obligation qui va en fait représenter une portion de Bitcoin qui seront détenues quelque part en physique. Donc contrairement aux ETF qu'on appelle futur, il y a derrière de vrais bitcoins. Et en fait,
là, il faut posséder directement le sous-jacent, donc en l'occurrence, le bitcoin.
Exactement. Alors, vous ne possédez pas directement, mais en gros, vous pouvez...
Quelqu'un le possède pour vous, en tout cas. Vous pouvez vous y exposer,
vous exposer à de vrais bitcoins. Alors que dans le futur, en fait, vous pariez un petit peu sur des bitcoins que vous ne détiendrez jamais, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le lancement... Alors, ils n'ont pas encore été lancés, mais il commence à y avoir des pubs.
On va en parler tout à l'heure. Voilà.
Ouais, et en fait, ça peut provoquer un afflux massif de liquidités. Et en fait, des gens, une demande qui va... Certains disent qu'elle va exploser et donc faire drastiquement monter le cours du bitcoin. Et on sait que quand le cours du bitcoin augmente, tout le reste suit un peu, parce que notamment il y a un des mécanismes qu'on retrouve, c'est que les détenteurs de bitcoin en fait les mettent en garantie dans la finance décentralisée, vont emprunter les actifs et aller jouer dans la finance décentralisée et faire un petit peu monter ce qu'on appelle les altcoins, donc qui sont toutes les cryptos sauf le bitcoin. Et en fait, souvent c'est comme ça que ce qu'on appelle les cycles haussiers, donc les bullruns, commencent. C'est avec une hausse importante du bitcoin qui mécaniquement fait monter un peu tout le reste.
Bitcoin qui a été jusqu'à maintenant le métronome de ce marché. Vincent, pour 2023, qu'est-ce que vous retenez, vous ? Donc, il y a un gros côté réglementation. L'a dit Louis, vous êtes d'accord avec ça. Là, on a parlé de la réglementation US, mais ça va pas mal bouger aussi chez nous, en Europe. Aussi,
ouais. L'année 2023, c'était l'année make or break. L'année 2023, post-2022, vu de chez ma grand-mère ou de Madame Michu, ça vient de 60 000 dollars, le Bitcoin, en 2021. C'est descendu à 20 000 ou en dessous.
16 000, oui.
16 000
de FTX, oui.
Donc, il y a un an, 2022.
À 16 000, en 2022. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On me dit que c'est l'avenir, ça se prend moins 80 ou moins 75%. Donc là, vu de loin, on se dit, mais bon, je ferme le dossier, hop. Et en fait, on a eu tout le news flow négatif cette année. Et malgré tout, on termine l'année, probablement, on va terminer l'année, c'est un marché de flux, hein, comme les marchés actions, le Nasdaq 100 qui est au plus haut. On va terminer au plus haut l'année. Donc c'est un marché de flux, donc c'est-à-dire que la confiance est revenue alors que le news flow était juste horrible.
À quel moment ça a basculé dans l'année ? À quel moment on est passé de très négatif à plutôt positif ?
Déjà, moi, pourquoi c'était négatif ? C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'opérateurs, de politiques, d'agents économiques qui voulaient la mort du Bitcoin et des monnaies digitales, vu de loin. Voilà, c'est une disruption dans le monde tranquille et feutré de la finance traditionnelle. Et c'est en fait générationnel. C'est les jeunes veulent ça, et les anciens se posent des questions si c'est vraiment bien. Et je ne vous parlerai pas des discussions que j'ai avec d'anciens ministres de la finance ou de banquiers centraux, qui, pour eux, ce sont des sujets aujourd'hui qui ne sont pas appropriés dans la situation des dettes souveraines des grands États. Donc, bon, je pense que tout le monde a compris. Donc, il était question de réglementer à défaut de dire stop, et de ralentir le processus qui semble être inévitable, puisque c'est une volonté générationnelle de jeunes qui, eux, veulent cet outil-là pour demain. Et donc, c'est plutôt eux qui ont gagné, puisque tout le news flow négatif, et il y en a eu, n'a pas remis en question la perception par le très grand public et aussi par les financiers de ce type d'outils. Et aujourd'hui, bah, c'est l'année qui démontre qu'on a, on démontre en fait l'utilité et le succès du Bitcoin et des monnaies digitales autour du Bitcoin, parce que on s'inscrit pour une année 2024 avec plein de bonnes nouvelles et le news flow sera pour le coup complètement différente.
Et pour, on parlait de réglementation qui a marqué cette année, on parlait de réglementation ES. Si on peut faire un point rapide, c'est quoi la prochaine étape pour la réglementation ES? C'est l'arrivée potentielle, la réponse en janvier, début janvier 2024 de cette ETF Bitcoin, s'il sera accepté, oui ou non, c'est ça la prochaine étape aux États-Unis?
Non, mais c'est surtout l'émergence d'un cadre en fait spécifique pour les cryptos, parce qu'aujourd'hui les États-Unis, et ça paraît un petit peu incroyable, mais aujourd'hui les États-Unis sont, on va dire, l'un des seuls espaces du monde capitaliste très important, si ce n'est peut-être le plus important, à ne pas avoir de réglementation spécifique, ou en tout cas un début de réglementation.
Justement, elle va venir comment? C'est quoi? C'est cette ETF en arrivant qui...
Non, en fait, les ETF, c'est vraiment l'investissement. En fait, en soi, un ETF, la réglementation existe déjà. Il y a juste à mettre le Bitcoin derrière. Alors, évidemment, ça pose d'autres questions en termes de manipulation de marché, mais ces choses-là, effectivement, vont faire avancer. Mais il manque tout de même quand même un cadre pour permettre l'émergence d'acteurs du paiement, permettre le traçage, permettre aussi l'émergence de tout type de NFT, pas seulement l'art, parce qu'on parle souvent de l'art, mais il y a plein d'outils de NFT qui sont nécessaires au niveau industriel. Donc en fait, pour faire émerger et pour vraiment, parce que Vincent l'a souligné, c'est une affaire générationnelle aussi, pour vraiment développer les usages, il faut un cadre spécifique, pas forcément des règles très différentes. Il y a certains aspects, par exemple, quand on parle de la tokenisation, donc la tokenisation, c'est le fait de numériser, on va dire, ou en tout cas d'avoir des représentations d'actifs réels comme des actions sur blockchain. Ça, typiquement, la tokenisation, on peut appliquer quand même une grande partie du droit financier, mais il y a plein de choses, il y a plein de nouveaux usages qu'apporte le Web3, en tout cas des usages avec des chemins, des infrastructures différentes qui nécessitent quand même des réglementations adaptées. Et l'un des points forts, notamment en Europe, c'est d'avoir tout de suite différencié le côté titre financier et actif numérique. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, souvent, quand vous entendez la SEC dit tout est titre financier. Enfin, tout est security.
Donc là, c'est encore flou, ce débat n'est pas tranché.
Non, mais totalement, exactement. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, en fait, le titre financier, une security, c'est quand vous allez toucher, en fait, un rendement, une sécurité, quand vous allez recevoir une sorte d'actif. En fait, effectivement, beaucoup de cryptos peuvent, en fait, si voilà, on peut un peu les considérer comme des securities.
Il y avait aussi des questions de gouvernance, de management,
exactement. Et le problème, c'est que c'est pas clair. En fait, on peut aussi bien dire c'est pas des securities, mais on peut aussi bien dire c'est des securities. Donc.
Et la question là, c'est prévu. Il y a un cadre clair qui est prévu d'arriver.
Alors,
là, bientôt aux États-Unis ou
selon quand même les retours qu'on a de personnes sur place et de sources sur place. Ça paraît quand même assez... En fait, aujourd'hui, c'est un blocage politique aux États-Unis. C'est-à-dire que...
Il faudrait attendre les élections en novembre 2024.
C'est le risque. Alors, on a vu aussi Coinbase, par exemple, est appelé, on va dire, à faire du lobbying un temps, justement, pour faire émerger un cadre avant, parce qu'un an, c'est quand même gigantesque. Dans un an, en Europe, il y aura MiCA. Donc, décembre 2024, il y aura les premières applications concrètes de MiCA. Donc MiCA, c'est la
Market in Crypto Assets, hein, donc le règlement européen qui est censé harmoniser, en tout cas,
exactement,
tout ce qui touche au Web3 entre les pays de l'Union européenne.
En Europe, on aura ce régime, et aux États-Unis, ils viendront juste d'élire un nouveau président ou de, enfin voilà, les élections seront passées ou pas. Hein, il y aura, ce sera peut-être toujours le même, mais voilà, c'est difficile d'imaginer un changement avant. Donc la situation est quand même très floue. Après, ça n'empêche pas des acteurs américains comme Circle ou Coinbase de se développer à l'étranger. Et puis peut-être aussi dans les perspectives de 2024, il y a quand même une chose, c'est l'entrée concrète. On sait que aujourd'hui la blockchain va constituer quand même une grande partie du futur des infrastructures du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les banques restent quand même assez discrètes sur le sujet, tout le monde discute sur, enfin tout le monde travaille sur le sujet. Nous, on le révélait ce matin dans notre newsletter. Swift, par exemple, a présenté, alors c'est un prototype, c'est quelque chose qui n'est pas du tout opérationnel, mais a présenté lors d'une réunion, un moment de travail, on va dire, avec plusieurs banques, un prototype qui permet justement via son système de messagerie, parce qu'en fait Swift, c'est un système de messagerie qui permet justement de, en gros, pour faire simple, de sécuriser en fait des transactions entre banques. Et en fait là, ils ont présenté un système qui permettrait justement de réaliser donc du règlement sur blockchain via leur système de messagerie.
Ils utiliseraient la blockchain, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui.
Exactement, bah, pour ne pas se faire disrupter. Parce qu'effectivement, la blockchain, en fait, promet, en automatisant notamment le règlement livraison...
Bah, il pourrait se faire tout simplement des intermédiaires, quoi.
Voilà. Exactement, exactement. Donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, ça va... En fait, 2023 était la confirmation que la blockchain allait vraiment compter dans les futures infrastructures de marché.
Vincent, en 2024, on aura peut-être, en janvier, un ETF Bitcoin Spot. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça pourrait changer? Parce qu'il y a tout un débat. Certains disent ouais, c'est vraiment un game changer énorme, et d'autres disent bon, ça va changer, mais pas tant que ça. C'est quoi votre point de vue là-dessus?
Alors, d'un point de vue patrimonial sur l'ensemble des crypto-monnaies, on est aujourd'hui à près d'1,5 trillion, 1500 milliards de dollars, en comparaison des 2000 milliards de contrats d'assurance vie qu'on a en France. C'est quasiment l'ensemble de l'épargne financière des Français qui est logé dans des contrats d'assurance vie, quasiment. Donc c'est une réalité, qui est de la réglementation ou pas. Mais ce qui est assez fort, c'est que même sans réglementation d'un point de vue du juridique, du monde ancien, eh bien, ça fait quand même l'équivalent de l'épargne française. Donc, c'est une réalité, il n'y a pas de discussion là-dessus. On aurait pu se poser la question en 2022, parce que ça avait beaucoup baissé et ça aurait pu terminer à 100 milliards. Là, on en a 1500. Et donc, là, je dirais, l'argument massue, c'est de dire que BlackRock, par exemple, ou d'autres, hein, les très grands asset managers, vont lancer de toute façon, pour des raisons stratégiques produits, d'innovation produits, donc ce type d'ETF, d'ETF.
On attend, je crois, aux alentours du 10 janvier, ARK Invest, hein, c'est ça la réponse?
Alors, entre ouais, le 5 et 10, il y aura une nouvelle salve de réponses ou non. Effectivement, il y a beaucoup d'attentes. En fait, si vous voulez, c'est par période. Il y a plusieurs périodes. Et effectivement, les prochaines échéances où la SEC est attendue en termes de réponse, mais elle peut une nouvelle fois repousser.
Ça peut être repoussé.
Exactement.
Ouais, vous le sentez comment, là?
Moi, je ne vois pas la SEC refuser indéfiniment. À un moment donné, il faut qu'il se positionne.
Donc vous, pour Vincent, pour vous, c'est possible là qu'on l'ait
On ne peut pas nier...
C'est pas impossible, de toute façon, tout est possible, mais vous êtes plutôt...
On ne peut pas nier 1500 milliards sur ce type d'actifs. C'est pas possible. On ne peut pas. Alors, de là à déverser les 9 trillions, donc les 9 000 milliards que gère BlackRock sur ce type d'actifs, non. Mais je pense que tous les grands asset managers diront, vous mettez 5% sur ce type d'actifs, on ne sait jamais, mais 5% de, allez, 30 000 milliards, de 30 trillions des principaux asset managers,
c'est pas mal.
Ça fait encore une nouvelle fois 1 500 milliards. Donc on a le potentiel pour doubler la market cap globale de toutes les crypto-monnaies déjà l'année prochaine.
Bon, donc ce qui pourrait doper entre guillemets le marché, donc il y a ça, il y a les taux, hein. Jérôme Powell s'est exprimé il y a quelques jours, en président de la Fed, qui prévoit potentiellement 3 baisses de taux en 2024. Bon, chez nous, la BCE, Christine Lagarde, n'a pas été très claire, on ne sait pas trop pour l'instant. Il y a aussi le halving qui va arriver en avril 2024. Donc c'est la division par deux du nombre de récompenses qui est versée aux mineurs de Bitcoin, donc qui va mécaniquement augmenter la rareté de cet actif-là. À chaque fois qu'il y a eu un halving, dans les semaines qui ont suivi, on a un marché haussier qui est apparu. Est-ce que c'est probable qu'on ait la même chose en 2024?
Oui, parce qu'en fait, comme dans les marchés actions, il y a un mimétisme, il y a une anticipation et ça devient des prophéties autoréalisatrices. On dit « sell in May and go away ». Vous avez aussi, en fin d'année, toujours, si les marchés sont haussiers début décembre, on sait qu'on va terminer sur le plus haut sur l'année. Donc il y a tout ça qui devient des prophéties. Et ça marche. Donc moi, si j'avais un ticket à mettre, je jouerais post-événement la hausse du Bitcoin. Puis en plus, si effectivement les marchés sont haussiers, bon, il y a plein d'investisseurs qui disent que l'année sera en deux temps. Premier semestre, c'est plutôt tranquille parce qu'on reste sur le momentum de fin de cette année. Et puis deuxième semestre, c'est les élections. Je pense que le marché va déjà anticiper les élections courant premier semestre. Donc ça peut être compliqué pour les marchés actions. Mais je pense que le Bitcoin, ça sera peut-être la première fois depuis longtemps qu'on va revoir une décorrélation avec le marché. Parce que sur l'année 2023, c'est le bêta du Nasdaq 100 x2. C'est l'évolution du Nasdaq 100 x2. C'est-à-dire que depuis septembre, le Bitcoin a pris 80%. Le Nasdaq 100 a accéléré aussi. Donc on voit que c'est des marchés de flux qui sont connexes. Et je pense que là, ce sera peut-être l'année 2024. Ce serait intéressant de voir si c'est le moment où cette classe d'actifs va se décorréler des autres classes d'actifs pour des raisons de rareté, mais aussi d'utilité.
Louis, quelque chose à ajouter?
Oui, alors probablement, en fait, on va se diriger vers une baisse de taux parce que l'inflation aujourd'hui quand même baisse doucement, quand même se stabilise ou baisse doucement, ça dépend des interprétations qu'on a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme les taux vont baisser, il faudra aller chercher du risque ailleurs. Et où est-ce qu'on peut aller chercher du risque, notamment dans la finance décentralisée? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lors du dernier bull run, c'est exactement ce qu'ont fait un certain nombre d'acteurs. Donc, ça a été fait quand même un peu n'importe comment. On a vu Celsius Network, notamment, qui était une plateforme de prêts et d'emprunts, faire faillite parce que voilà, le risque management était quand même très 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 douteux. Vous avez aussi Thrasios Capital, qui est un espèce de hedge fund crypto, pareil, qui a fait faillite parce qu'ils avaient parié sur ce qu'on appelle un espèce de super cycle. C'est-à-dire qu'en gros, la théorie du super cycle, c'est quand les cryptos commencent à monter, elles montent pour 10 ans. Donc on pouvait s'attendre dans 10 ans à Bitcoin à 1 million. Voilà, bon. Après, ça, c'est une narrative quand même, il faut quand même un peu se méfier. Mais bon, voilà, ils avaient parié dessus. Obviously, ça ne s'est pas avéré quand même très, très pertinent. Donc effectivement, on va rentrer dans une baisse des taux. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les stablecoins vont se comporter. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est comme un établissement de monnaie électronique. Tether ou Circle, en fait, gagnent de l'argent parce qu'ils s'exposent à la dette d'État. Donc, avec les taux. Donc aujourd'hui, vous avez du Tether ou du Circle qui vont gagner sur les obligations d'État entre 5 et 6%. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne redistribuent pas ces 5 et 6%. Alors, Circle le fait un petit peu via Coinbase, parce que Coinbase et Circle sont très liés, mais Tether ne redistribue pas directement à ses utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va voir, effectivement, comment est-ce que Tether, par exemple, va augmenter ses réserves en crypto dans ses réserves totales et diminuer son exposition à la dette d'État. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi être très intéressant à observer. Et puis effectivement, comme le soulignait Vincent, voir si le Bitcoin, l'Ether et même le marché global, puisque effectivement, ça apporte de nouveaux usages, de nouvelles manières de s'exposer, de nouvelles infrastructures, voir si effectivement ça va un peu plus, encore plus se décorréler du marché traditionnel.
Bah justement, on a vu du coup une hausse quand même assez spectaculaire du Bitcoin, hein, plus 160% sur un an à l'heure où on se parle. Mais il y a aussi d'autres narratives, notamment du côté des altcoins qui ont émergé. Donc on a vu l'IA, on a vu les real world assets. Pour vous, en 2024, quelles pourraient être les narratives qui se développent le plus du côté du marché crypto, des altcoins, de toutes les narratives qui touchent au Web3?
Ah bah ça, c'est une... C'est
des suppositions, évidemment. Hein,
effectivement, y en a une quand même, c'est les Layer 2. Donc les Layer 2, c'est des sous-couches, en fait, de Layer 1. Donc un Layer 1, c'est Ethereum, c'est un réseau principal. Et en fait, aujourd'hui... comme trop de monde en fait veut emprunter l'autoroute qui est Ethereum, en fait les coûts de transaction sont trop élevés. Donc en fait la solution qui a notamment été présentée et qui est en train de se développer en ce moment, c'est brancher en fait des sortes de sous-blockchains, donc ce qu'on appelle des layers 2, qui sont censés en fait désengorger le réseau principal. Donc en fait là la technologie est encore en pleine construction. Donc il y en a plein, il y a Arbitrum, il y a Optimism, il y a Base qui est le layer 2 de Coinbase et plein d'autres, hein, Starknet et effectivement. Et aujourd'hui ces technologies sont pas encore totalement. Donc ce qui sera intéressant de voir effectivement, c'est si ces technologies là commence vraiment à être mûr et commence vraiment à désengorger Ethereum. Là, ce qui peut être très intéressant dans la perspective de la massification de la tokenisation des actifs financiers. Et puis, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que la crypto, déjà, c'est assez compliqué à comprendre, assez compliqué à aborder. Et je pense quand même que 2024 va voir arriver de nombreuses banques, de nombreuses institutionnels qui vont quand même capitaliser sur les acquis qu'ils ont déjà eus. Donc, le Bitcoin, aujourd'hui, tout le monde connaît. Enfin, les régulateurs quand même cadrent assez bien la chose, voient assez bien et comprennent que c'est vraiment décentralisé par rapport aux autres cryptos. Ethereum, on voit l'intérêt. Alors après, évidemment, il peut y avoir d'autres narratives. Par exemple, il y a Celestia. Donc, pour la faire simple, c'est une blockchain modulaire qui propose une autre technologie et qui permet de créer des espèces de blockchains à la demande. Donc effectivement, il va y avoir quelques petites narratives comme ça. Et puis, il y a aussi l'écosystème Cosmos, hein, qui présente un nouveau mode d'interopérabilité. Donc, voilà.
Une sorte d'internet de la blockchain.
Ben, exactement, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de technologies.
Pour conclure, il nous reste quelques secondes.
Non, mais tout à fait, il y a beaucoup de technologies. Mais voilà, les institutionnels qui vont rentrer veulent quand même capitaliser sur ce qu'ils connaissent et sur ce qui les rassure et ce qu'ils arrivent à bien cadrer.
Eh ben, on suivra ça, réponse dans quelques jours pour la reprise du Club BFM Crypto. C'est la dernière du Club BFM Crypto, mais demain, vous retrouvez les pros des cryptos à 15h pour la dernière de l'année avec Guillaume Sommerer. Et on se retrouve dès le lundi 8 janvier. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Vincent Fourcault, expert de la tech et des marchés financiers. Merci. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. Merci, bonne journée, bonne soirée, bonne fête et rendez-vous demain 15h avec Guillaume Sommerer.
BFM Business, BFM Crypto, le club.